proprement dit, avec en préambule une présentation de nouveaux arrivants dans notre collectivité. Tout d'abord, Pascal Jaume, nouvelle directrice de la crèche, à qui je vais peut-être passer le micro, qui va se présenter en deux mots.
Bon ben, bonsoir à tous. Je suis donc Pascal Jaume, je suis puéricultrice. J'ai intégré donc la structure au mois de juin, dans un premier temps pour remplacer Patricia Deschamps qui est partie en retraite sur le poste de directrice adjointe pour un passage de relais pour prendre la suite de la directrice qui est partie en vacances au 1er décembre. Voilà. Voilà. Merci.
Alors, il y a aussi ce soir Stéphanie Segond, qui est directrice adjointe de la crèche, nouvellement.
Merci. Bonsoir à tous. Je parle, tout le monde entend. Voilà, je suis Stéphanie Segond.
T'es plus près.
Ça marche pas. Bonsoir, donc Stéphanie Segond, je suis éducatrice de jeunes enfants. Voilà, j'ai intégré tout récemment la municipalité de Camaret, donc le 1er décembre. Voilà, j'ai eu un très bon accueil à la crèche. Voilà.
Merci. Et enfin, Monsieur Bruno Andrieux, qui remplace Dominique Bortolotti depuis quelques jours.
Depuis un mois, vous avez tout dit. Voilà, Bruno Andrieux, je viens de Bédouin et je remplace Dominique à l'espace René Roussière. Voilà, on s'occupe de tout ce qui est entretien de la commune. Voilà.
Merci, bienvenue à tous les trois. Alors, nous devons désigner un secrétaire de séance. Je propose Monsieur Jean-François Leroy. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je fais état des procurations que j'ai reçues. Hervé Auriac a donné procuration à Michel Lagarde. Fanny Cuère m'a donné procuration. Jean-François Mengui a donné procuration à Marlène Thibault. René Sauvera a donné procuration à Michel Payalonga. Et Martine Seller a donné procuration à Laurent Arcuzet. Nous avons eu également un certain nombre de remerciements. Tout d'abord, de la part de la famille Bernal, les enfants de Bernal Marie nous remercient de l'attention que nous leur avons portée lors du décès de Dorian. Monsieur Hubert Chastel, sa fille et ses petites-filles nous remercient pour toutes les marques de sympathie et d'amitié que nous leur avons témoignées lors du décès de Madame Yveline Chastel. Et enfin, David Icard, joueur bien connu de motoball, a été très touché par notre attention lorsqu'il a été blessé lors d'un match avec notamment une fracture du nez et un certain nombre d'hématomes. Voilà. Alors, vous avez reçu le procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que vous avez des remarques ? Alors, pas de remarques, je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté, je vous en remercie. Et nous passons à l'ordre du jour. Proprement dit, budget principal 2017, décision modificative numéro 2, rapporteur Sylvette Gilles.
Conformément à l'article L1612-11 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé une décision modificative du budget principal permettant d'ajuster les prévisions budgétaires initiales votées le 29 mars 2017, tout en maintenant l'équilibre budgétaire. La présente décision modificative tient compte des réalisations d'ores et déjà effectuées et de celles en cours. vu l'article L1612-11 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal du 29 mars 2017 portant approbation du budget primitif de la commune de Camaret-sur-Aigue pour l'exercice 2017, vu les différentes réalisations effectuées en 2017 et celles en cours, vu l'avis de la commission des finances réunie le 4 décembre 2017, il est demandé au conseil municipal d'adopter la décision modificative numéro 2 du budget principal de la commune telle qu'annexée. Donc vous avez le tableau annexé au rapport de présentation. La décision modificative est assez courte. Pour la section de fonctionnement en recettes, rien ne change. Concernant les dépenses, il y a 50 euros en diminution de crédit qui correspondent à des titres annulés. Pour compenser, 50 euros en nouveau crédit qui correspond à un complément de dégrèvement de la taxe foncière pour les jeunes agriculteurs. Et concernant la section d'investissement en recettes, pas de changement. Et en dépenses, 9 000 euros de diminution de crédit qui correspondent à des extensions de réseaux permis de construire qui n'ont pas été utilisées. Pour compenser, 2 500 euros et 3 458 euros sont des travaux, des études topographiques pour l'avenue du Mont Ventoux et le rond-point avenue du Mont Ventoux et chemin battu. Et ensuite, 3 042 euros qui correspondent à l'accrochage du tableau rénové à l'église. Voilà, c'est tout.
Merci. Y a-t-il des questions ? Alors, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix qui est contre. Le groupe de Madame Thibault, qui s'abstient, adopté à la majorité, je vous en remercie. Dossier numéro 2, correction d'écriture comptable, suite à la vente d'un terrain appartenant au domaine privé de la commune, rapporteur Sylvette Gilles.
Vu la note du ministère des Finances et des Comptes Publics numéro 2012-05 du 18 octobre 2012 sur la normalisation des comptes publics relative aux corrections d'erreurs dans les collectivités territoriales, vu la demande du Centre des Finances d'Orange, comptable de la commune, afin de rectifier les écritures comptables passées à tort en 2015 suite à la vente à Madame Chabert-Colette d'un délaissé du projet de voie verte faisant partie du domaine privé de la commune. Un résumé des mouvements. En 2005, acquisition de l'emprise foncière pour le projet de voie verte sur le bien numéro 637 pour une superficie totale de 88 240 mètres carrés. Valeur du bien 11 142 euros, soit 13 centimes le mètre carré. En 2015, vente à Madame Chabert-Colette d'une partie de délaissé de la voie verte, soit 738 mètres carrés, multiplié par 13 centimes d'euros, ce qui fait 95,94 euros, à retirer sur le montant de la valeur du bien, 11 142 000, à savoir prix d'acquisition 14 600 euros, sur le titre 711 sur 2015. Considérant que lors de cette cession, la valeur nette du bien 637 est sortie par erreur dans sa totalité, considérant qu'une réintégration de la valeur nette du bien d'un montant de 11 046,06 euros et non 16 doit être effectuée dans l'actif de la commune pour en constater la plus-value. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser la trésorerie d'Orange, comptable de la commune, à effectuer les mouvements financiers nécessaires sur le compte 1068 afin de réintégrer la valeur nette comptable du bien communal relatif au projet de voie verte et de constater la plus-value réalisée lors de la vente à Madame Chabert.
Merci. Y a-t-il des questions ? Alors, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, le groupe de Madame Thibault, adopté à la majorité. Dossier numéro 3. Attribution d'une subvention exceptionnelle pour participation au championnat de France de grosse boule. Le rapporteur Jean-Michel Marlot.
Deux équipes ont été qualifiées pour participer au championnat de France de sport boule les 20, 21 et 22 juillet 2017 à Chambéry. Les membres de ces deux équipes sont licenciés à l'association de la grosse boule à Camaret-sur-Aigle. Monsieur le Président sollicite le soutien financier de la commune pour faire face aux dépenses de déplacement et d'hébergement ayant permis cette participation au championnat de France. Vu le budget municipal, il est demandé au conseil municipal d'accorder le versement à l'association de la grosse boule d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 200 euros pour faire face aux dépenses de déplacement et d'hébergement des deux équipes ayant participé au championnat de France sport boule les 20, 21 et 22 juillet 2017 à Chambéry. Les sommes inhérentes à cette dépense seront mandaté par les crédits prévus à l'article budgétaire 6574 de la section de fonctionnement du budget principal 2012.
Merci. Y a-t-il des questions? Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Dossier numéro 4. Convention avec la Caisse d'allocation familiale de Vaucluse concernant le dispositif carte temps libre, année 2018. Rapporteur Jean-François Leroy.
Convention avec la Caisse d'allocation familiale de Vaucluse concernant le dispositif carte temps libre année 2018. La commune de Camaret-sur-Aigle et la Caisse d'allocation familiale de Vaucluse sont partenaires depuis plusieurs années autour du dispositif carte temps libre. La carte temps libre a pour objet de permettre aux familles allocataires de conditions sociales modestes d'accéder à l'offre de loisirs de proximité sur la commune, portée par des structures habilitées par la direction départementale de la cohésion sociale ou dont les interventions sont reconnues localement. La carte temps libre est une aide à la famille. Il s'agit d'un dispositif propre à la CAF de Vaucluse. Il est complémentaire au contrat enfant-jeunesse national. La carte temps libre s'adresse aux enfants de plus de 3 ans et aux jeunes de moins de 18 ans. Le quotient familial des familles bénéficiaires est celui fixé par la CAF. Les familles sont bénéficiaires d'une notification de droit unique par famille sous forme de carte temps libre en fonction du quotient familial. Et le montant est valorisé pour chaque enfant, comme suit. 136 euros pour un quotient familial compris entre 0 et 230 euros, 104 euros pour un quotient familial compris entre 131 et 305 euros, 72 euros pour un quotient familial compris entre 306 et 400 euros. Le dispositif carte temps libre met en œuvre le principe de la détermination d'une enveloppe financière, éventuellement révisable annuellement, et abondée à hauteur de 50% par la commune et à hauteur de 50% par la caisse d'allocation familiale en faveur des allocataires du régime général. L'enveloppe budgétaire s'élève conformément à l'avenant à 1 600 euros pour 2018. La commune de Camaret-sur-Aigle participe à hauteur de 50%, soit 800 euros. Et la caisse d'allocation familiale de Vaucluse à hauteur de 50%, soit 800 euros. Le compte est bon. Vu l'avis de la commission des finances réunie le 4 décembre 2017, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention carte temps libre 2018 pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention et tout document afférent à ce dossier. Vous avez en annexe la convention carte temps libre.
Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc alors je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 5, modification du règlement de fonctionnement de la structure multi-accueil, rapporteur Jean-François Leroy.
structure multi-accueil, une modification du règlement de fonctionnement. Par délibération du 16 septembre 2010, le conseil municipal a approuvé le règlement de fonctionnement de la structure multi-accueil. Ce dernier étant modifié par les délibérations du 13 septembre 2012, le 4 juillet 2013, le 23 octobre 2014 et le 27 novembre 2014. Compte tenu du prochain changement de direction au sein de la crèche de la commune de Camaret-sur-Aigle et de diverses évolutions, il devient nécessaire de compléter le règlement. Ces modifications portent sur la présentation de la structure, identité, numéro de voirie, le personnel, la direction notamment, les différentes offres d'accueil, accueil régulier, modification du contrat, les modalités d'admission, commission d'attribution des places et composition du dossier d'inscription, la participation financière des familles, ressources prises en compte, modalités de paiement, aussi l'accueil de l'enfant et de sa famille, vie quotidienne, accueil de l'enfant et alimentation, santé de l'enfant, médicaments et projets d'accueil individualisés. Et enfin, l'information et la participation des parents à la vie de la structure. Vu la délibération numéro 2010-108 du 16 septembre 2010 portant règlement intérieur de la fonctionnement de la structure multi-accueil, vu la délibération numéro 2012-délib-67 du 13 septembre 2012 portant notification du règlement de fonctionnement de la structure multi-accueil, vu la délibération 2013-délib-055 du 4 juillet 2013, vu la délibération 2014-délib-087 du 23 octobre 2014, vu la délibération 2014-délib-098 du 27 novembre 2014, vu le projet de règlement annexé à la présente délibération, il est proposé au conseil municipal d'approuver les nouveaux termes du règlement de fonctionnement, d'autoriser monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Donc il s'agit surtout de acter les changements à la direction de la crèche notamment. Madame Thibault.
Oui, je pense que c'est bon. Monsieur Leroy, par rapport au règlement, sur la page 4 concernant le personnel, il est bien précisé donc la direction, le personnel assurant l'encadrement des enfants, le personnel de service, les intervenants extérieurs. À la lecture de ce règlement, je ne vois pas le médecin référent. Le médecin référent, je vous rappelle, est obligatoire dans les crèches de plus de 10 enfants. Donc je ne le vois pas, je vois que ça ne figure pas.
C'est des intervenants extérieurs, mais on peut le rajouter.
Ah non, ce n'est pas un intervenant extérieur, c'est un médecin référent. C'est obligatoire dans les crèches. Le médecin référent réalise d'ailleurs les visites d'admission des bébés de moins de 4 mois. Et ainsi que les enfants présentant un handicap ou souffrant d'une maladie, il doit y avoir un médecin référent. Sur les crèches de 1 à 20 enfants, le médecin référent intervient une demi-journée par mois. Sur les crèches de 21 enfants à 40 enfants, en général, il intervient donc une demi-journée tous les 15 jours. Donc aujourd'hui, il y a un manquement assez grave, je dirais, dans le cadre de l'encadrement des enfants et l'hygiène et la sécurité au niveau de la crèche si un médecin référent n'est pas désigné. Parce qu'à ce jour, la puéricultrice n'est ni infirmière ni médecin, donc c'est une obligation. Ça, c'est la loi, c'est l'article 2324-2 avec un petit tiret 1. Les établissements et services d'une capacité supérieure à 10 places s'assurent du concours régulier d'un médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie ou à défaut celui d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie dénommé médecin de l'établissement ou du service. Ça n'a rien à voir avec le médecin traitant de famille.
Non, n'en doute pas, je laisse la parole à monsieur le DGS qui va vous expliquer ça.
La loi et les règlements nous obligent à avoir à la direction de la crèche soit, effectivement, ça peut être un médecin, c'était le cas jusqu'à maintenant, ou une puéricultrice et une éducatrice jeunes enfants. C'est exactement ce que nous avons. La directrice de la crèche est une puéricultrice et la directrice adjointe est une éducatrice de jeunes enfants. Le médecin référent peut très bien être un médecin externe à la structure. C'est-à-dire qu'on fait appel soit à un médecin agréé pour intervenir dans le milieu de la crèche, soit à un organisme qui compte des médecins qui interviennent. Et c'est ce qui se fait à partir de ce qui va se faire maintenant à partir du départ en retraite officiel de Madame Baillet, qui était médecin. Nous ferons appel à un organisme externe qui mettra à disposition, à la demande de la directrice, un médecin qui interviendra dans le cadre de la structure. Voilà. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est le fonctionnement de milliers de crèches en France qui n'ont pas toutes un médecin à leur tête.
Oui, mais j'entends. Je ne parle pas d'avoir un médecin à la tête de la crèche. Simplement un médecin référent. Il doit figurer, ça doit figurer dans le règlement. Si vous parlez de médecin de la PMI, c'est une chose, mais il doit y avoir un médecin référent. Donc ça doit figurer dans le règlement intérieur de la crèche.
Nous pourrons le préciser. De toute façon, le règlement de la crèche va être de nouveau modifié en février, puisque la CAF nous a demandé cette semaine, pas plus tard qu'hier, un certain nombre de précisions qu'elle demande à tous les établissements du Vaucluse. Donc nous remettrons le règlement de la crèche avec quelques modifications au conseil municipal de février pour préciser que nous avons un médecin référent, puisque c'est le cas.
Voilà. Oui, mais ça doit être dans la convention et il doit y avoir le schéma de contrat de convention avec le médecin référent. Écoutez, moi c'est une loi, hein, enfin c'est la loi qui est de 2010. Hein, Non, j'ai vu d'autres règlements, j'ai consulté les règlements de crèche, même structure dans les villes, sur tous les règlements figurent parmi le personnel, le médecin référent. Donc voilà, c'est une obligation. Et je dirais que c'est une obligation pour la sécurité des enfants et du personnel.
Attendez, oui. D'accord. Parce que là, madame Thibault, vous êtes en train d'entretenir la confusion. Si. Vous êtes en train d'entretenir la confusion. À aucun moment, nous avons décidé de ne pas faire intervenir de médecin référent. C'est la loi. C'est la loi qui s'impose. On peut répéter ce que dit déjà la loi en le précisant dans l'article concernant les intervenants extérieurs dans le règlement intérieur, mais de toute façon, c'est une réalité et c'est la loi. Donc n'essayez pas, quelque part, de faire croire que on ne fait pas appel à un médecin référent. On le fait. On ne fait qu'appliquer la loi. On peut aussi le préciser dans le règlement intérieur, mais enfin, c'est relativement secondaire. Ce qui est important, c'est qu'il y ait effectivement un médecin qui intervienne et qui surveille que tout se passe bien à son niveau de compétence. C'est ça qui est le plus important, me semble-t-il.
Non, mais j'entends, mais moi je vous répète, ça doit figurer dans le règlement de la crèche. C'est tout.
C'est dans le code de la santé publique.
Voilà, tout à fait.
Ce qui est dans le code de la santé publique, c'est l'intervention d'un médecin référent.
Et que le médecin doit être mentionné
sur le règlement. Ouais. Mais écoutez, nous, par rapport à ça, donc on ne va pas adopter ce règlement et nous attendrons les modifications, la présentation du nouveau règlement. Tu voulais intervenir ?
Oui. Parce que du coup, sur la page 11, sur la rubrique santé de l'enfant, vous donnez des responsabilités à la directrice péricultrice qui, normalement, vu le code de la santé publique, incombe à un médecin. Donc, à mon avis...
Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous... allégations ?
Page 11, dernier paragraphe, santé de l'enfant. Donc, il est marqué « La directrice péricultrice assurera les missions sanitaires prévues dans le décret du 7 juin 2010 en veillant notamment à... » Et les points que vous mentionnez sont ceux du Code de la santé publique, mais normalement, enfin pas normalement, pour le médecin. Donc là, vous donnez une responsabilité à une personne qui n'a pas les qualifications dans le cadre du Code de santé publique.
A été soumis et approuvé par la PMI et par la directrice Madame Baillet, qui est médecin, qui connaît mieux que nous, je pense, le fonctionnement de ce genre de structure. Voilà. Oui. Maintenant qu'on précise le médecin référent, nous allons poser la question. S'il faut le mettre dans le règlement, nous le mettrons. En tout cas, Madame Jaume, qui était là tout à l'heure, est puéricultrice, elle est infirmière, c'est un personnel de santé. C'est et la PMI nous a confirmé qu'elle pouvait mener ses... voilà.
Bon. Je mets aux voix qui est contre le groupe de Madame...
Mais,
Vous l'avez déjà dit, mais nous avons répondu que le règlement allait être amendé suite aux observations que nous allions sans doute avoir d'ici quelques temps.
En attendant, nous votons contre.
C'est bien noté. Les modifications. J'ai bien compris, Madame Thibault. Qui s'abstient, adopté à la majorité, je vous en remercie. Dossier numéro 6. Bilan de la mise à disposition au public du dossier et approbation de la modification du PLU menée sous une forme simplifiée, rapporteur Christine Winkelmann.
Bilan de la mise à disposition au public du dossier et approbation de la modification du PLU menée sous une forme simplifiée. Monsieur le maire rappelle que la commune a engagé une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme qui a pour objectif d'apporter une précision quant à la rédaction des règles relatives à l'emprise au sol dans les zones U et AU. En effet, il s'agit de préciser que les piscines, terrasses couvertes et abris ouverts ne sont pas concernés par les règles d'emprise au sol fixées dans une de chacune des zones. De modifier la règle concernant les caractéristiques des toitures, des annexes au sein des zones concernées. En effet, il s'agit de rendre possible les toitures à un seul pan lorsque l'annexe est implantée en limite de terrain. Vu le code de l'urbanisme, vu la délibération 2016 des Libesans du 13 décembre 2016 approuvant le plan local d'urbanisme PLU, vu la délibération 2017-056 du 6 juillet 2017 prescrivant la modification simplifiée du plan local d'urbanisme, vu les avis des personnes publiques associées, vu la mise à disposition au public du dossier du 5 octobre 2017 et au 6 novembre 2017, vu l'avis de la commission d'urbanisme en date du 6 décembre 2017, Monsieur le maire présente le bilan de la mise à disposition au public du dossier qui s'est tenu en mairie du 5 octobre 2017 au 6 novembre 2017. Il indique que durant cette mise à disposition du dossier au public, quelques personnes sont venues consulter le dossier, mais qu'aucune observation n'a été formulée. Monsieur le maire indique que l'ensemble des avis des personnes publiques associées reçues sont favorables et n'appellent pas de modification du projet. Considérant que le projet de modification simplifiée du plan local d'urbanisme tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé conformément aux articles L5336 à L5340 et L15345 à L15348 du code de l'urbanisme. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le bilan de la mise à disposition au public, d'approuver la modification du PLU menée sous une forme simplifiée telle qu'elle est annexée à la présente. De dire que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans un journal diffusé dans le département. De dire que le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public en mairie de Camaret-sur-Aigle et à la préfecture de Vaucluse aux heures et jours habituels d'ouverture. De dire que la présente délibération sera exécutoire un mois à compter de sa réception par le préfet et après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
Merci. Y a-t-il des questions ? Alors, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Monsieur Arcuzet. Adopté à la majorité. Dossier numéro 7. Extension du champ d'application des permis de démolir. Rapporteur Christine Winkelmann.
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles R421-26 à R421-29, vu le plan local d'urbanisme approuvé le 13 décembre 2016, considérant que le champ d'application du permis de démolir a été redéfini par l'ordonnance du 8 décembre 2005 et par le décret du 5 janvier 2007, d'une part, et qu'il n'est plus systématiquement requis, d'autre part, il appartient au conseil municipal de rendre le permis de démolir obligatoire sur l'ensemble ou sur une partie de son territoire. Article R421-27 du Code de l'urbanisme. Considérant qu'il est de l'intérêt de la commune de soumettre les démolitions à un permis de démolir sur l'ensemble de son territoire pour protéger au mieux les bâtiments de la commune. Vu l'avis de la commission d'urbanisme en date du 6 décembre 2017, il est demandé au conseil municipal d'accepter de rendre obligatoire le permis de démolir sur l'ensemble du territoire de la commune de Camaret-sur-Aigue.
Merci. Y a-t-il des questions? Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 8. Mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Dit RIFSEP. Rapporteur Antonio Muga.
Donc, si vous permettez, chers collègues, vous avez eu en présentation, pour ceux qui étaient présents en différentes commissions, le RICEP. Donc, vu les différentes pages, je pense que vous avez pu vous prendre, du moins, prendre attache et lecture des différents points qui sont relevés. Donc, je vous demande directement, du moins, je vous informe qu'on va passer directement, il vous est proposé au conseil municipal. Et à l'issue, si vous avez d'autres questions, même celles qui ont été abordées en différentes commissions, je serai la même pour vous répondre, soit moi ou monsieur le directeur général des services. Donc, il est proposé au conseil municipal donc d'abroger le régime indemnitaire existant tel que listé ci-dessus, d'instaurer au sein de la commune à compter du 1er mai 2018, conformément au principe de parité tel que prévu par l'article 88 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions et sujétions de l'expertise et de l'engagement professionnel, RICEP, en lieu et place du régime indemnitaire existant pour les agents de la commune décrits ci-dessus, stagiaires, titulaires et contractuels de droit public, versés selon les modalités définies ci-dessus. De permettre la modification des crédits afférents au crédit global de chaque prime en fonction de l'évolution du tableau des effectifs ainsi que la revalorisation des barèmes et taux applicables aux fonctionnaires d'État en fonction des textes en vigueur sans nouvelle délibération. De dire que la part principale du RICEP IFSE sera désigné sous le nom d'indemnité de technicité et d'expérience, ITE, et que la part facultative, le CIA, sera nommée prime initiative de résultat et d'assiduité, le PIRA. D'autoriser le versement des sommes afférentes à l'ITE par mensualité et le cas échéant, celle afférente au PIRA annuellement en décembre. De préciser que les primes susceptibles d'être attribuées dans le cadre du régime indemnitaire ne sont pas acquises de droit et peuvent être modulées. Elles pourront être revues à la baisse, à la hausse ou ne subir aucune modification selon les modalités établies ci-dessus. Le maire est chargé de l'application des différentes décisions de cette délibération par les biais d'arrêtés individuels d'attribution. De prévoir les crédits nécessaires au budget primitif, chapitre 012, charges de personnel, frais assimilés, articles 6411 et 6431. Avez-vous des remarques ou des suggestions?
Pas de d'observation. Bon, effectivement, c'est un dossier qu'on a déjà largement travaillé, dont nous avons débattu en amont dans différents organismes. Mais bon, peut-être que certains élus peuvent avoir encore des choses à éclaircir. N'hésitez pas, sachant qu'il s'agit quand même d'une refonte assez profonde du régime indemnitaire. Bien, écoutez, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 9. Régime indemnitaire des agents de la fonction publique. Cadre d'emploi non transposable au RIFSEP. Rapporteur Antonio Muga.
Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, chers collègues, donc je vous fais grâce des premières pages et on passe directement sur il est proposé. Et si vous avez encore à nouveau des questions, comme on a délibéré dans les différentes instances. Donc, il est proposé au conseil municipal de maintenir au sein de la commune à compter du 1er mai 2018, conformément au principe de parité tel que prévu par le troisième alinéa de l'article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, le régime indemnitaire existant pour les cadres d'emploi non transposables au RICEP, et ce jusqu'à la parution des textes et dans les conditions fixées ci-dessus. De permettre la modification des crédits afférents au crédit global de chaque prime en fonction de l'évolution du tableau des effectifs ainsi que la valorisation des barèmes et taux applicables aux fonctionnaires d'État en fonction des textes en vigueur sans nouvelle délibération. D'autoriser le versement des sommes afférentes à ce régime indemnitaire par fraction mensuelle. De préciser que les primes indemnités susceptibles d'être attribués dans le cadre du régime indemnitaire ne sont pas acquises de droit et peuvent être modulées. Elles pourront être revues à la baisse et à la hausse ou ne subir aucune modification selon les modalités établies ci-dessus. Le maire est chargé de l'application des différentes décisions de cette délibération par le biais d'arrêtés individuels d'attribution. De prévoir les crédits nécessaires au budget primitif, chapitre 012, charges de personnel, frais assimilés, articles 64-111 et 64-131. Oui, madame Thibault ?
Je voulais simplement une précision concernant justement ces agents de la fonction publique non transposables au RICEP. Ils conservent le régime indemnitaire actuel, mais par rapport aux deux autres agents qui vont bénéficier de primes, enfin ce qu'on appelle de primes de fin d'année, quelque chose est prévu pour ces agents, pour une équité de traitement, je dirais, au sein de la collectivité?
Là, nous sommes à l'étude, on est en attente d'avoir une réponse sur cela, quoi. Donc, les différentes instances ont été saisies et pour l'instant, personne ne se positionne. Donc, comme je disais en préambule, on ne peut pas créer de nouvelles primes, comme vous le savez. On ne peut pas créer une nouvelle ligne de prime X. Donc, on doit se plier à l'heure actuelle au RICEP et on attend réponse pour pouvoir, du moins pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les différentes modalités par rapport aux agents qui ne sont pas impactés par rapport à cette mise en place. Mais c'est à l'étude. On attend une réponse. Voilà, tout à fait. Nous ne sommes pas la seule collectivité de France à s'interroger sur ça.
En fait, on est devant la complexité du dossier. C'est que l'État nous propose un nouveau régime indemnitaire, voire nous incite fortement à passer à ce nouveau régime indemnitaire, mais n'a pas encore mis en place toutes les filières et tous les types de grades dans ce nouveau régime indemnitaire. Et par ailleurs, pour ceux qui restent, donc qui n'ont pas encore eu les décrets d'application ou les arrêtés leur permettant de passer au RICEP, il semblerait, parce que les textes sont flous, comme dans beaucoup d'autres matières, que l'on ne puisse pas créer de nouvelles primes. C'est-à-dire que on pourrait se voir, si on fait cette interprétation-là, ceux qui ne sont pas transposables au RICEP ne pourraient pas se voir créer une nouvelle prime qui serait équivalente à la prime annuelle qu'on a prévue pour les agents soumis au RICEP. Simplement, on a trouvé quelques pistes et on est en train de consulter à la fois le centre de gestion et des consultants juridiques pour nous rassurer sur ce point et faire en sorte qu'on puisse effectivement avoir une équité entre les agents RIFSEP et les agents non transposables au RIFSEP. Ce qui est rassurant également, c'est que les préfets apparemment ont reçu des consignes de souplesse en la matière, puisque les retours des collectivités qui sont passées au RIFSEP plus tôt que nous, c'est-à-dire l'année dernière, montrent qu'il y a quand même besoin de quelques adaptations, et les préfets ont reçu des consignes de souplesse pour qu'on puisse être un petit peu plus libre que ce que semblent dire les textes en la matière. Voilà.
Merci. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 10. Modification du tableau théorique des effectifs, rapporteur Antonio Mugin.
vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, complétée et modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2016-604 du 12 mai 2016, fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, vu la délibération du 27 septembre 2017, établissant le tableau théorique des effectifs de la commune de Cameray-sur-Aigle, vu les dispositions statutaires applicables aux différents agents de la commune en matière d'évolution de carrière, vu le départ à la retraite de certains agents, considérant l'intégration au tableau théorique des avancements de grade proposés en commission administrative paritaire du 20 juin 2017, considérant que les crédits seront inscrits au budget primitif 2017 au chapitre 012, oui, les propositions de Monsieur le maire, il est demandé au conseil municipal d'accepter les suppressions des postes suivants. Un poste d'adjointe technique territoriale principale de première classe à temps complet, un poste d'adjointe technique territoriale principale de deuxième classe à temps non complet, à raison de 33 heures hebdomadaires. Un poste d'adjointe technique territoriale à temps non complet, à raison de 30 heures hebdomadaires. Un poste d'adjointe technique territoriale à temps non complet, à raison de 20 heures hebdomadaires. Trois postes d'adjointe technique territoriale à temps complet. D'accepter le nouveau tableau théorique des effectifs tel qu'annexé à la présente délibération.
Merci. Y a-t-il des questions? Alors, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 11, prolongation d'un poste d'adjoint technique territorial au sein des services techniques dans le cadre du dispositif contrat d'accompagnement dans l'emploi, CAE, rapporteur Antonio Muga.
Dans le cadre du décret numéro 2009-1442 du 25 novembre 2008, relatif au contrat unique d'insertion, contrat d'accompagnement dans l'emploi. Le contrat d'accompagnement dans l'emploi CAE est un contrat d'aide réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités et établissements publics territoriaux, qui s'adressent aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. La prescription du contrat d'accompagnement dans l'emploi est placée sous la responsabilité de Pôle emploi et pour le compte de l'État ou du Conseil général. Vu le budget de la commune, considérant que la politique sociale de la commune, ou la proposition de Monsieur le maire de prolonger un emploi de contrat d'accompagnement dans l'emploi à compter du 25 octobre 2017 dans les conditions suivantes. Profil, un poste d'agent polyvalent des services techniques, donc on fait la fiche de poste que vous avez en annexe. Durée du renouvellement du contrat, 6 mois, avec l'accord préalable de la convention passée entre l'employeur et le prescripteur. Durée hebdomadaire du travail, 35 heures. Rémunération SMIC horaire multipliée par le nombre d'heures de travail. Et de l'autoriser à intervenir à la signature de la convention avec le Pôle emploi et différents contrats de travail à durée déterminée avec la personne qui sera recrutée. Il est demandé au conseil municipal de prolonger un poste dans le cadre du dispositif contrat d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions suivantes. Le profil, un poste d'agent polyvalent des services techniques, durée du renouvellement du contrat 6 mois, durée hebdomadaire de travail 35 heures, rémunération SMIC horaire multipliée par le nombre d'heures de travail, d'autoriser Monsieur le maire à permettre en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires avec Pôle emploi pour ce recrutement.
Merci. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 12. Création d'emplois non permanents pour faire face à un accroissement temporaire d'activité et à un accroissement saisonnier d'activité. Rapporteur Antonio Muga.
Vu l'article 3, alinéa 2. De la loi du 26 janvier 1984 modifiée, vu le budget de la commune, considérant qu'il est nécessaire de recourir à l'emploi d'agents non titulaires pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, considérant qu'il est nécessaire de recourir à l'emploi d'agents non titulaires pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité, considérant que ces agents exerceront à titre principal les fonctions d'adjoint administratif territorial et d'adjoint technique territorial, oui, la proposition de Monsieur le maire de créer ces postes d'adjoint administratif territorial et d'adjoint technique territorial. Il est demandé au conseil municipal d'accepter de créer le poste suivant pour un accroissement temporaire d'activité. un poste d'adjoint administratif territorial à temps complet pour le service administratif, service accueil population, d'accepter de créer le poste suivant pour un accroissement saisonnier, un poste d'adjoint technique territorial à temps complet pour le service collectivité restauration, d'imputer les sommes afférentes à cette dépense au chapitre 012 du budget principal de la commune.
Merci. Y a-t-il des questions? Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Vous avez reçu l'état des déclarations d'intention d'aliénés. Pas de questions. Ainsi que l'état des décisions du maire. Très bien. Y a-t-il des questions diverses? Monsieur Arcuzet.
Oui, donc ça concerne une question qu'on m'a posée auquel j'ai pas su répondre. Alors c'est de la compétence de la communauté de communes, mais en tant que vice-président, vous avez certainement la réponse. C'était de savoir quelle était la filière de valorisation des biodéchets qui sont mis notamment dans les colonnes noires.
Vous pouvez répéter la question, j'ai pas bien compris.
La filière de valorisation.
La filière de valorisation. Ben, c'est pas ma compétence en tant que vice-président de la communauté de communes, mais ce que je peux vous indiquer, c'est que il est prévu donc un flux particulier pour les biodéchets. Alors je pourrais pas vous citer le nom du prestataire, ni à quel moment cette prestation sera complètement effective, mais comme vous l'avez constaté, il y a 5 flux différents pour 5 types de déchets différents, et dont les biodéchets.
Donc c'est pas effectif encore en ce moment.
Ainsi, la filière de valorisation biodéchets est effective. De la même façon, je suis pas en mesure de vous dire l'entreprise ou la société qui recueille les biodéchets. Simplement, la difficulté qui est rencontrée à ce niveau-là, c'est que on trouve dans les biodéchets un certain nombre de choses qui n'ont pas à y être. Certains déposent leurs sacs poubelles dans les biodéchets ou d'autres choses. Et dès qu'on dépasse le taux de 3%, d'éléments qui ne sont pas des biodéchets, c'est refusé à l'entrée de la société qui traite les biodéchets. Donc là, l'intercommunalité est en train de trouver de chercher des solutions pour remédier à ça. Ça passe par une nouvelle campagne de communication, ça a déjà été fait pour inciter les gens à ne plus commettre ce genre d'incivilité. C'est peut-être aussi, on nous propose, c'est à la réflexion je crois, de mettre par accès badgé la colonne biodéchets pour limiter, voire pour supprimer les éléments qui n'ont pas à y être, qui n'ont pas à être dans ces colonnes-là. Voilà.
Dans le même ordre d'idée, j'en profite pour informer le conseil municipal ainsi que la population que malheureusement nous avons dû procéder à un certain nombre de procédures, de procès-verbaux pour non-respect des arrêtés municipaux qui concernent cette collecte. Donc effectivement, il y a beaucoup trop d'incivilité. C'est dommage parce que ça nuit à la grande majorité de nos concitoyens qui, eux, font l'effort nécessaire pour bien trier les déchets. Mais il y en a qui prennent les colonnes enterrées pour une véritable déchetterie. Donc il y a tout et n'importe quoi. Je ne sais pas ce que ça passe de l'embrayage de voitures à des roues de vélo. Enfin il y a un peu tout et n'importe quoi. Voilà. Donc nous avons été contraints de passer à la phase malheureusement répressive. Et ça, il faut que chacun en soit bien conscient. Voilà, je vous informe que le prochain conseil municipal aura lieu le 1er février 2018. Et il me reste à vous souhaiter de passer une bonne soirée ainsi que de bonnes fêtes de Noël.